radio.
Oui, on parlait de l'importance que le Japon pour
vous. Oui, c'est là où j'ai pris conscience petit à petit que notre environnement géographique à chacun d'entre nous a une incidence énorme sur notre structure de pensée au quotidien. On ne l'analyse pas, mais prenez la France par exemple. Le Pen, pas Le Pen, la France a vécu du brassage de toute son histoire. De la Mongolie à la Bretagne, le Finistère, c'est le cul-de-sac de tout un continent. Et je ne sais pas, je n'ai pas la culture pour ça, je ne sais pas si des sociologues ont posé leur pensée là-dessus. La sensation que j'ai, que dans l'histoire humaine, toutes les grandes migrations ont suivi le chemin du soleil, d'est en ouest. Il y a eu des invasions d'ouest en est. Vous voyez, vers l'Amérique, l'Amérique latine. Alors, vous prenez le Japon, déjà, c'est une insularité très particulière. Bon, déjà, je dis toujours que les Anglais sont toujours plus Anglais qu'on s'y attend. Il y a une mentalité insulaire, mais eux, c'est un archipel. Au point de vue superficie générale, c'est plus petit que la France. Au point de vue latitude, ça va du Québec à Cuba. Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
C'est énorme.
C'est incroyable. Il y a une variété inouïe, quoi. Et alors, côté ouest, c'est la mer du Japon. Hein. C'est rien. Tokyo, Séoul, c'est Paris-Londres. Mais il les a quand même protégés. Côté est, je vous demande de faire un effort pour prendre conscience du fait que Tokyo est aux antipodes de Santiago du Chili et il n'y a que le Pacifique entre les deux, avec les petits rochers Hawaï au milieu. Donc un état d'isolement incroyable et un état de provisoire. Tremblement de terre, tout ça. Donc, ça engendre quelque chose qui m'a vraiment touché, c'est-à-dire que finalement, ils ont les pieds dans les racines et la tête dans le 22e siècle. Et ça, c'est palpable partout. C'est une petite anecdote, mais qui est symbolique. Bon, moi, j'adore le rugby, par exemple. Et là-bas, j'allais voir un match de rugby à Tokyo. C'était une finale, un grand stade, 60 000 personnes. Et, circonstance, c'était le jour de la fête des 20 ans. Et les jours de la fête des 20 ans, toutes les jeunes filles de 20 ans sortent en kimono de cérémonie. Et sortaient du métro, allaient au stade, des centaines de jeunes filles en kimono de cérémonie qui allaient au match de rugby. C'est cet anachronisme
oui,
là où
le mélange de...
Voilà, les pieds dans les racines. Et donc c'est un pays vraiment qui est fascinant à tout point de vue, quoi.
Et alors justement au Japon, parce que je rebondis là-dessus, vous avez rencontré aussi des gens, des musiciens, des artistes, et je pensais à Ryuji Sakamoto, parce que c'est un des plus connus pour les Français,
oui.
C'est pour ça que je le cite, parce qu'il y en a d'autres, mais est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose
j'en ai plus que ça, je ne vais pas vous faire la grosse tête.
Non, j'imagine.
Non, ce qui s'est passé, c'est que, moi si vous voulez, j'ai commencé à écrire à 14-15 ans, et j'ai jamais eu d'ambition de carrière, si vous voulez. J'ai jamais eu d'impresario, j'ai une obsession de la disponibilité, quoi. J'adore me laisser porter, d'ailleurs sur mon tout premier passeport, adolescent, à la rubrique profession, j'avais marqué promeneur, et il m'arrivait, quand je vous parle de disponibilité, c'est un symbole. Premier grand voyage hors frontière que j'ai fait, adolescent, c'était vers la Scandinavie et tout ça. J'avais ma guitare et il m'arrivait de faire du stop alternativement d'un côté et de l'autre de la route pour me laisser porter.
D'un sens ou dans l'autre.
Voilà, c'est la disponibilité totale. Donc c'était en 82, je crois, oui. J'ai aucune mémoire des dates.
Oui, c'est vers 80, ouais. Début de l'année 80.
Ouais. Il y a un Japonais qui est venu me proposer ce qu'ils n'avaient jamais proposé à un Français, c'est d'aller faire un disque au Japon avec des musiciens japonais. Bon, moi des disques, comme j'étais tellement vampirisé par les gens qui j'ouvraient la porte à Sarava...
Bah donc il y avait du délai entre les différents albums...
J'en faisais un tous les 7-8 ans, et à chaque fois c'était un hold-up, hein, je faisais en 2-3 jours, et là, il me propose ça, puis moi je dis bon, et il me parle des musiciens qui m'attendaient avec un tel respect dans la voix, je me dis, ils doivent être importants, mais j'en avais pas entendu parler. Alors, puis un truc très très japonais, il m'avait dit, oui, on va vous trouver un petit studio et tout ça, j'ai dit, oui, mais j'aimerais bien avoir un scooter à Tokyo. Et il m'avait pas dit non, et c'est là où j'ai compris un des éléments essentiels pour moi du Japon, c'est qui joue un rôle énorme dans toute la dynamique économique, c'est la courtoisie de base. Quoi. Hein, je vous dois trois briques, par exemple. Vous allez me dire, ce serait bien que tu me les rendes. Je ne vais pas dire non, mais vous voyez.
Oui, il y a toujours un moyen de trouver. On ne dit jamais non, mais.
Voilà. Alors, j'arrive et. Alors, oui, d'abord, je me suis enfermé pendant quelques mois pour écrire des nouvelles chansons et laisser dans l'album un espace vide que je voulais combler par une utopie qui était d'écrire des choses sur place avec les gens que j'allais rencontrer. J'adore le partage. Hein, et
la rencontre.
La rencontre, quoi. Et voilà, et il m'avait parlé, je vous dis, des musiciens avec. Mais je ne connaissais pas. Et donc, j'arrive et je n'avais pas mon scooter. Alors, je lui dis non, vous m'amenez le scooter. Et puis, je vous suis jusqu'au studio. Et voilà, il m'a dit d'accord. Alors, finalement, j'ai eu mon scooter. Et là, ça a été une rencontre absolument merveilleuse, quoi. Alors, comme je vous disais, les quelques disques que je faisais vampiriser, que j'étais à Saraba, c'était un hold-up en 3-4 jours, là, un mois de studio. J'étais au bout de l'utopie, j'ai écrit des chansons avec eux. Et ça, c'était en juillet. Ils m'ont fait revenir en octobre. Et ils m'ont dit, voilà, on fait un concert là. Alors, c'était une grande salle. Et moi, je sais pas si vous avez assisté à un de mes concerts un jour.
Non, pas encore. Non, je me suis contenté des disques, malheureusement, que j'ai contenté au concert.
Parce que moi, quand je fais des soirées, je prévois jamais rien. Mmh. J'adore me laisser porter par l'alchimie des gens qui m'entourent, et tout ça, et eux.
Mais un peu comme l'émission de télé que j'avais vue il y a de 75, qui avait une part d'improvisation. J'avais noté le nom de cette émission qui s'appelait. Tiens, il y a de la lumière.
Soit.
Une émission de télévision que vous avez faite qui s'appelait Tiens, il y a de la lumière.
Ah oui, oui.
En 75 à la télé, parce que je trouve que justement par rapport à ce que vous dites par rapport au concert, c'était un peu le même esprit.
Oui, oui.
Dans l'émission où il y a un peu de.
Non, je prévois jamais rien quand je fais. Mais là, il m'avait dit, voilà. Et je dis, non. Donc, c'était de l'impro totale et tout ça, et c'était vraiment superbe. Et depuis, je vis au Japon. Vraiment des aventures d'un romantisme fou, quoi. Si un jour on est appelé, ce que je souhaite à se revoir, je vous montrerai un document qu'on va sortir en DVD. C'est là, jamais un gadjin, c'est-à-dire un étranger, a vécu ça. Parce qu'un étranger qui vient au Japon faire des concerts, il y a une agence, c'est tout.
Ouais, ça y repart. Voilà.
Mais là, c'est un guitariste japonais et un percussionniste, tous les deux. Fou de musique brésilienne, qui voulait qu'on vive ensemble. Et tout s'est fait avec des traces décelées par le percussionniste. J'ai fait, je sais pas, entre 50 et 60 dates dans tout le Japon, dans des temples bouddhistes, dans des temples zen, dans des fermes, dans des écoles.
C'était pas la tournée habituelle.
Dans des écoles, et ils étaient complètement complices de l'impro totale, quoi. Et j'ai tout filmé. Et je pensais que quand j'aurais fini le montage, j'aurais un road movie de 30 heures, mais j'ai un document d'1h50. Où je montre un Japon, mais que même les Japonais connaissent pas, quoi.
Oui, le Japon profond, enfin, au sens où...
Ah oui, incroyable. Et ce qu'il y a, c'est que il y a une présence brésilienne au Japon inouïe. D'ailleurs, moi, la première fois que j'étais au Brésil, c'était en 59, par là, ouais.
Oui, c'était juste après, vous êtes parti de Lisbonne au Brésil,
ouais.
Justement, je voulais en parler de la connexion qui s'est faite quand vous étiez retrouvé à Lisbonne et après d'être parti de Lisbonne au Brésil.
Oui, ça, c'est, on en parlera. Mais là, quand j'étais là-bas, à Rio, il y a des gens qui me disaient, à São Paulo, il y a plus de Japonais que d'habitants. Et c'est vrai. Alors, ce que m'a appris l'attaché culturel, là, c'est que il y a un moment où il y a 600 000 Japonais qui sont partis au Brésil. Et il y en a beaucoup qui sont rentrés au Japon. Mais ils ont gardé...
Des racines, des choses.
Voilà, oui, c'est incroyable. Alors, je me suis retrouvé... Juste une anecdote. J'étais dans une île au sud qui s'appelle Amami Oshima. Alors, c'est... La première fois que j'étais en avion, et j'étais dans un avion qui arrivait une heure avant l'avion de l'empereur. Première fois qu'un empereur venait sur cette petite île. Donc il y avait une effervescence incroyable. Quand je suis arrivé sur l'île, pareil, les gens... Et il y a une seule route qui fait le tour de l'île, avec des petites routes vers l'intérieur, vers la montagne. Et il n'y avait personne sur la route, ils attendaient l'empereur, quoi. Mais moi, on était venu me chercher, et tout le long de la route, il y avait les femmes en kimono, les enfants avec les drapeaux et tout ça. J'ai jamais été accueilli comme ça.
Comme ça.
Mais ce qui m'a ému et qui devrait vous émouvoir, c'est que je vivais avec ma compagne Atsuko et mes enfants, ils parlent japonais. Autrement, ils ont leur langue, elles ne comprennent rien. Et ce qui se passe dans ce village, c'est qu'il y a des fêtes d'un mot à l'autre, différentes, où les femmes dansent, jouent des percussions et tout ça, et ils chantent dans une langue qui est leur langue d'origine.
Un dialecte qu'ils ont gardé.
Qui n'a pas d'écrit. Mais ma femme ne comprend rien. Hein. Mais ce qui m'a vraiment ému, c'est que rien ne s'est évaporé de toutes les racines par la chanson.
C'est la chanson qui a transmis le... Oui, parce qu'on a l'impression aussi que le Japon, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, était extrêmement sous domination américaine et occidentalisé.
Non,
il reste des endroits où...
Incroyable. Où mais partout. Hein. J'ai
Tokyo, on a l'impression que c'était complètement...
Ah non, pas du tout.
Ça c'est du point de vue extérieur. Hein,
mais... Non, mais... Non, alors là, par exemple... J'ai un scooter à Paris, hein. Je me suis volé, je me suis fait voler en deux en quelques années. Là-bas, j'ai un scooter. J'ai rendez-vous à Shinjuku, qui est un quartier. On a passé d'une vie entière pour aller dans tous les bars qu'il y a dans un seul pâté de maison. J'ai rendez-vous au 24e étage dans un bar pour prendre un café avec un pote. Je laisse mon scooter en bas. J'oublie la clé dessus. J'oublie ma caméra dans le panier devant. Je reviens 3 heures après, c'est là.
Oui, c'est...
Donc, quand vous me dites que c'est...
Culturellement, il reste vraiment...
Il n'y a pas une métropole au monde.
Non.
C'est incroyable. Et quand je vous disais tout à l'heure que l'élément de la courtoisie joue un rôle énorme dans toute la dynamique économique. La première fois que je suis revenu du Japon en 82, j'ai fait un dossier que j'ai envoyé au ministère de la Culture, où je voulais provoquer en France une grande campagne de courtoisie. Alors, le propos était simple. Faire deux petits films, un positif, un négatif. Négatif, vous êtes à Paris, dans un quartier qui n'est pas le vôtre, vous arrivez dans un bistrot, vous faites « Bonjour ». Bon, on ne répond pas, c'est pas grave. « Un café, s'il vous plaît ». Au bout de la troisième fois, « Ouais, ben ça va, j'ai entendu ». Bon, vous êtes en bagnole dans la rue, il y a un mec qui décharge sa camionnette, vous attendez un peu, vous dites « Excusez-moi, ben fais pas chier, moi je bosse ». Quand vous avez pris deux ou trois petites charges négatives, vous faites un transfert à un moment.
Ouais, et après, on fait comme les autres.
Et faire le même film en positif. Hein, vous arrivez, bonjour, le mec de la camionnette, il vous fait seulement, excusez-moi, 2 minutes, vous êtes prêt à l'aider à sortir un paquet. Et réunir des sociologues, mais surtout des économistes, qui puissent tenter, je dis bien tenter, de faire l'inventaire de ce que coûte à la nation le manque de courtoisie élémentaire. Inchiffrable. Courtoisie, j'ai jamais eu de réponse du ministère de la Culture.
Et justement, je repensais au Japon par rapport à des personnalités comme Ryuji Sakamoto, etc., qui étaient déjà des grandes, des grands artistes, des grandes vedettes. Comment ils se sont, parce que justement, on parlait de la courtoisie, il y a l'air d'avoir une grande modestie. Donc, des gens comme Ryuji Sakamoto, quand ils sont venus vous voir, malgré leur statut, ils ont l'air d'avoir.
Moi, j'en revenais pas parce que je les connaissais pas. Je vous dis, le mec qui était venu, le japonais, m'avait parlé d'eux avec un tel respect que incroyable. Et leur premier disque, il avait appelé Sarva pour me rendre hommage, je crois. C'est incroyable à quel point. Ça a été très très émouvant ma première visite et depuis. Mais c'est dingue, j'ai des documents.
Je regarderai ça.
Mais vous pouvez les trouver sur Internet. Ouais. Hein, vous faites les carnets de Pierre Barou.
Ouais, je vais aller voir ça. Ouais.
Est-ce que vous savez, par exemple, que Jésus-Christ est mort au Japon à l'âge de 106 ans?
Ah non, alors là, je...
C'est incroyable. J'avais sympathisé avec un ami un japonais et qui me dit, dans quelques jours, je vais là-haut, tout à fait à Hokkaido, tout à fait dans le nord du Japon. Et il y a des amis qui m'attendent, ils m'amènent sur la tombe du Christ. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez fait, moi.
J'aurais été extrêmement étonné.
Bah, avec toi, j'arrive, on nous attendait à la gare. 3 heures de route dans la montagne. Et au milieu de la montagne, mais vraiment, c'est même pas un village, c'est un hameau, qui s'appelle Erai. Alors l'histoire...
Erai s'écrit...
Erai, H-E-R-A-I.
Ça, c'est le genre de truc que je suis pas sûr de trouver sur Internet, et après, je vais chercher partout.
H-E-R-A-I.
D'accord.
Alors, je vous dis, c'est un hameau. Et l'histoire, c'est que le Christ, à 21 ans, est venu dans ce hameau du Japon pour poursuivre ses études de théologie. Il y restait 10 ans, il a suivi sa vocation qu'on connaît tous. Mais c'est son jeune frère, Iskiri, qui est mort à sa place sur la croix. Lui est revenu dans ce hameau du Japon avec la dépouille de son jeune frère. Vous verrez le document. Au milieu de la montagne, vous avez les deux tombes avec la croix et l'étoile de David, où il est mort tranquille, peinard, à l'âge de 106 ans, après avoir eu 2 enfants avec une superbe japonaise. Et c'est au début du mois, je ne sais plus si c'est avril ou mai, on y a été, il y a une fête autour de la tombe du Christ, mais incroyable, c'est une fête paysanne, le volcan enneigé au fond, les chants, les danses, les femmes qui ont l'air d'être venues du fond de la Mongolie, c'est incroyable, c'est une fête, mais incroyable, tous les ans, au début du mois de mai, oui, c'est ça. Ah, j'ai filmé ça.
Ah bah, c'est génial, j'en parlerai dans l'article. Et alors, justement, je voulais parler du fait que vous avez toujours été un pas de côté par rapport au showbiz, hein, parce que Sarabas, c'est showbiz, et puis aussi toujours voyager, le Japon, le Brésil aussi, qui est très important.
Très important.
mais alors, comment vous avez perçu les différentes... personnalité du showbiz que vous avez pu croiser, je pensais notamment à Yves Montand, puisque alors que lui il était à fond dans le showbiz.
Oui.
Comment vous pourriez le parler de lui Je pensais à lui parce que c'est.
Non, mais c'est des histoires incroyables. Je vais pas vous faire la grosse tête, mais moi qui adore les histoires, la morale confuse, ce sera à vous de me dire si c'est gai ou triste. Bon, déjà Montand. Avant la bicyclette, il m'a enregistré une chanson qu'il faut que je retrouve, qui s'appelle Pluie, que j'aime beaucoup. C'est la toute première chanson qu'il m'a enregistrée.
Elle n'est pas sortie, celle-ci.
Si, si, si.
Elle est sortie,
oui, elle s'appelle Pluie, on peut la trouver.
Je la chercherai.
Que j'ai écrite avec Francis. C'est la première. Mais, Montand, moi, j'avais été le voir au Théâtre de l'Étoile et tout ça et tout, mais on s'est retrouvés, un homme et une femme, au Festival de Cannes, avec Anouk, Cannes faisait un peu trop de bruit pour nous, donc on est à Saint-Paul-de-Vence, à la Colombe d'Or, le repère d'Yves Montand. Et c'est là où on ne parlait jamais chanson. Les femmes, je les appelais les veuves du poker, on jouait au poker et avec des petites parties de pétanque. Et puis un jour, on déjeunait ensemble, et moi j'adore chanter au dessert. Et je lui chantonne la bicyclette. Et Montand, il dit, oh là là, je voulais plus faire de disques et tout ça, il est devenu acteur. Mais j'adore cette chanson. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que Montand a jamais eu l'ambition d'écrire. Mais il a ouvert la porte à des auteurs. Prévert, tout ça et tout. Et le dernier couplet, c'était, si vous aimez le mot, c'est une anecdote incroyable. La puissance est d'un mot. Le dernier couplet, c'était le mec qui revenait plus tard avec femme et enfant sur les traces du fantôme de Paulette. Et c'est Montand qui, du bout des lèvres, me dit « Écoute, j'adore cette chanson, mais pour moi, ce serait mieux si c'était comme un petit film qui commence le matin et qui se termine le soir. » C'est donc provoqué par lui que j'écris ce dernier couplet. Mais alors, le dernier couplet. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait, fourbu, content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Vous voyez l'image. C'est le môme qui s'est distancé par les potes pour s'offrir une petite parenthèse. Quand il était en studio, j'étais pas là, il a fait une erreur infime et l'image se rétrécit complètement. Au lieu de chanter de n'être pas seul un instant, il a dit de n'être pas un seul instant. C'est fou l'importance des mots. Incroyable. Alors je l'appelle, je dis, tu sais, il me dit, oh merde, putain, tu as raison. Ce qui fait que pour qu'il écoute le disque studio, c'est de n'être pas un seul instant, et tous les autres
versions sont...
C'est de n'être pas seul un instant.
Ah oui, ça c'est...
Ça m'a fasciné, ça, l'importance d'un mot.
L'importance d'un mot qui est...
Incroyable, hein. L'image se rétrécit. Alors ça, mais bon, l'histoire à la morale confuse, c'est que j'ai vécu une aventure d'un romantisme fou avec un Chilien où on a écrit 4 pièces de théâtre ensemble. Ça vous est parvenu, ça?
Oui,
dont la première s'appelle Le cabaret de la dernière chanson.
Oui, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a la fameuse chanson.
Oui, mais vous allez voir, ça, c'est une histoire incroyable. Et c'est une histoire merveilleuse. Hein. Oh là là. Ça, c'est le genre de geste qui ne s'oublie pas. Hein. Pardon. Si je suis trop long, vous m'arrêtez.
Non, là c'est bien, là, de toute façon j'ai à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, donc là on est bien. Et vous disiez du coup pour l'histoire à la morale confuse par rapport au cabaret de la dernière chance, il y a ce fameux chien.
Oui, non, mais toute l'histoire du cabaret est vraiment folle, c'est pour ça. J'ai du mal à m'en priver. J'avais été invité à Biarritz pour être membre du jury à un festival de cinéma. Bon, ça m'intéressait pas trop d'être membre du jury, mais comme c'était un festival latino, il y avait que des latinos dans le jury, alors j'y étais, il y avait que des latinos, dont un Chilien, Oscar Castro. On se quitte pas pendant 8 jours, et c'est là où je dis, tu vis comment? Alors lui, sa mère assassinée par Pinochet, camp de concentration, il se retrouve en France et il monte une petite troupe de théâtre. Et il me dit, voilà, je donne des cours tous les week-ends à des amateurs, viens voir. Ça se passait dans l'arrière de l'église Saint-Eustache, dans les Halles. J'y vais et ça m'émeut. Il y avait une vingtaine de personnes. Et c'est là où l'idée vient d'écrire cette chanson, cette pièce, Le cabaret de la dernière chance, qui est l'histoire d'une nuit dans un cabaret lors du passage de la comète de Halley, je ne sais pas quoi. Je me dis, c'est l'histoire d'une nuit dans un cabaret, il y aura des chansons. Oui, parce qu'il m'avait dit, viens voir, quand on était rentré de Biarritz, on joue une pièce de théâtre, c'était la Cité universitaire. J'y vais, et comme j'aimais bien ce mec, j'avais un peu le trac. Quoi. Alors c'était une grande salle, ils étaient 12 sur scène, on était, je sais pas, peut-être une quinzaine dans la salle. Et au bout d'une heure, j'étais complètement ravi. Et il y avait une jeune femme, celle-là, il faut la découvrir, qui était la première femme d'Oscar, ils vivaient plus ensemble, mais ils étaient toujours ensemble dans le clan théâtral, qui était au piano, et donc qui a une présence, vous la rencontrez dans la rue, vous la remarquez pas, sur scène, c'est Giulietta Massima, puissance 10, voilà, une présence incroyable. Et je vais la voir, et je lui dis, Anita, écris des mélodies, on va écrire des chansons ensemble pour le cabaret. Je sais toujours pas si c'est vrai, elle me dit non, moi je compose pas et tout ça. La première mélodie qu'elle m'a amenée, c'est vraiment la plus grande mélodiste avec Francis que j'ai croisé. Quoi. Et on joue le cabaret de la dernière chance, bourré tous les soirs, et je fais le vœu d'amitié d'aller avec lui au Chili dès qu'il aurait le droit. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, Pinochet a fait un référendum, il souhaitait apparaître comme un président libéral.
J'ai vu un film sur le sujet.
Ouais. Donc il laisse la porte ouverte et tout ça. Moi je me dis merde, j'aimerais bien ramener un document. Et il y a un monsieur qui venait plusieurs fois, il était venu plusieurs fois, le cabaret de la dernière chance, il était venu 2 ou 3 fois, qui s'appelle Louis Berriot. Je ne sais pas si vous connaissez, qui était un des Big Boss d'Antenne 2.
Oui, c'est le nom, je resitue.
Il était venu via mes potes du rugby, parce que j'ai plus de potes dans le rugby que dans le cinéma ou dans la chanson. Hein. Et je l'appelle, bouteille à la mer, quoi. Je lui dis, écoutez, voilà, on va au Chili, j'aimerais... D'abord, je l'appelle, il me reçoit tout de suite, et il m'offre Résistance. Vous vous souvenez, c'est une émission présentée Noël ma mère.
Oui, tout à fait, oui.
Je suis parti avec une petite merde de caméra, j'ai amené ce document qui est passé sur Résistance et qui se terminait par la chanson Cabaret de la dernière chance. Francis Roux, le patron de la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence, meilleur pote avec Montand, voit le document, découvre la chanson, en parle à Montand qui m'appelle. J'envoie une cassette, le disque n'était pas fait. Il devient fou de la chanson. Ça lui est arrivé d'appeler à Tokyo, de tomber sur ma femme au téléphone, de lui chanter le cabaret au téléphone et préparer Bercy, qui allait être son chant du cygne. Ça faisait peut-être 20 ans qu'il n'était pas monté sur scène en tant que chanteur.
Oui, c'était dans la fin des années 80.
Oui, oui. Je ne sais plus, il y a 500 000 personnes qui allaient venir. Et un jour, message sur mon répondeur. Pierre, alors écoutez bien, j'ai aucune mémoire des dates, hein, moi, au-delà du chiffre 3,
je n'en vois la date.
Mais là, je ne peux pas oublier. Pierre, je te donne rendez-vous chez moi, place Dauphine, le mercredi 13 novembre à 11h du matin. Je note, et un ou deux jours avant d'y aller, j'avais loué une voiture, j'allais voir ma maman à Bougival, j'écoute la radio en voiture, j'apprends qu'Yves Montand était mort, et qu'il était enterré le mercredi 13 novembre à 11h du matin. Incroyable. Ouais. Je me dis, merde, je ne voulais pas lui poser un lapin, mais je ne voulais pas aller au Père Lachaise, Jack Lang, la télé, les panneaux, tout ça. Donc j'étais chez lui, j'ai laissé un petit mot. Deux ans s'écoulent, et j'apprends que Yves Montand a eu le temps d'enregistrer le cabaret La Dernière Chance, et que c'est sorti à titre posthume. Alors, et cette histoire, la morale confuse, à vous de me dire si c'est gai ou triste, mais c'est incroyable.
C'est un mélange des deux.
Ouais, non, mais voilà. C'est incroyable, non?
Bah, complètement, c'est complètement. Et alors justement. Pour arriver aux 50 ans de Sarava et au cabaret de la Dernière Chance, qui est interprété par
le disque, vous ne l'avez pas, hein, il faut cabaret de la Dernière Chance.
Ah non, le cabaret de la Dernière Chance, je ne l'ai pas.
Non, non, parce que là, vous me laisserez votre adresse.
Oui, avec plaisir.
Je vais demander à Yvonique de vous le faire parvenir. Il y a 21 chansons, mais c'est un bijou. C'est tout le patrimoine de chansons. Des quatre pièces de théâtre qu'on a écrites, jouées et mises en scène ensemble.
Ça m'intéresse beaucoup, oui. Et alors justement, comment vous voyez cette nouvelle génération de chanteurs et de chanteuses, d'artistes, qui rendent hommage aux 50 ans de Sarava?
Ça me touche beaucoup, je les ai retrouvés à Tokyo, là. Non, non, ça m'a vraiment ému, quoi. Je sais pas, moi.
Et alors, justement, pour revenir rapidement à. J'avais remarqué aussi qu'il y avait aussi beaucoup dans vos propres disques, beaucoup d'autodérision. Je pensais notamment au disque que j'ai ramené, où il y a un moment, il y a une chanson, même sur la marginalité, où vous vous moquez à la fois du showbiz, mais aussi d'une certaine forme de marginalité de l'époque.
Oui, oui.
Où ça devenait un peu un système. Un système de.
C'était une pub en fait.
Donc justement, pour conclure, je voulais quand même pas qu'on parle un petit peu des gens que vous avez pu croiser. Alors, il y en a eu tellement. Mais je pensais à Jérôme Savary, justement, parce qu'il a quand même une carrière. Et je pensais que ça aurait pu être bien de parler un petit peu de lui.
Le long métrage, vous le connaissez pas, Ça va, ça vient.
Je ne l'ai pas vu non plus, mais je veux absolument le voir, parce que je n'ai pas eu le temps de.
Non, parce que le. Savary, on est devenu pote, mais ce qu'il y a d'inouï dans ce film-là, il y a une critique de. Comment il s'appelle, le critique du monde, là qui était le plus redouté de tous les cinéastes.
Bory, non, c'est oui. Pas. Jean-Louis Bory, oui.
Jean-Louis Bory, qui est dithyrambique. Ce qu'il y a, c'est que dans la chronologie, si vous voulez, mon premier geste de cinéaste, c'est Sarava.
Oui, Sarava, oui.
Alors ça, c'est le symbole pur de mon parcours. Hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais eu d'ambition de carrière. Mais là, je prenais un pot à Saint-Germain-des-Prés, et puis avec Pierre Caste, je ne sais pas si vous voyez, c'est un cinéaste qui nous a quittés maintenant.
D'accord,
on prend un pot ensemble, et puis il me dit, ouais, je vais au Brésil bientôt, je vais faire un film là-bas, mais pourquoi tu ne viendrais pas me rejoindre dans un mois, et parallèlement, tu feras un film sur la musique, parce que j'étais déjà plus qu'ami avec Baden Powell et tout ça. Il s'en va. Un mois plus tard, j'envoie un télégramme. Personne à l'aéroport. Bon, j'avais son adresse à Rio, je me pointe chez lui, et il me reçoit comme un cousin de province qu'on n'a pas envie de voir. Au Brésil, vous connaissez?
Non, je ne suis pas encore allé au Brésil.
Il était venu avec sa panoplie de cinéastes français, ça ne fonctionne pas comme ça. Il me dit, ouais, on donne rendez-vous à des gens d'avance, ils ne viennent pas et tout ça, et dans 4 jours, on s'en va. Moi, je n'étais pas venu pour rien. 4 jours. Alors, je vais voir Baden Powell, je lui dis, voilà, Baden me dit, Pierre, tout ce que tu veux. Je vais voir Maria Bethania, qui démarre à l'époque, qui est devenue une star planétaire, qui me dit, aucun problème. Et le soir, on tournait en 16 mm, je réunis l'ingénieur du son et le caméraman. Et en toute humilité, je leur dis, les mecs, j'ai jamais fait de film, mais on commence à tourner demain. Et je n'avais que 3 jours. Donc je fais un hold-up en 3 jours, avec la complicité totale. Vous l'avez vu, ça?
Oui, fabuleux.
De tous les... Je rentre à Paris, c'est là où je me suis passionné pour le montage. Et à l'époque, c'est passé à la télé, et puis j'ai oublié. Moi, j'efface tout, quoi. C'est incroyable. Je vis trop...
Oui, quelqu'un qui archive, qui garde...
Je vis trop le présent, quoi. C'est... J'efface tout, j'oublie, et c'est les Japonais. J'ai essayé de faire une enquête là, pour savoir comment ils avaient eu connaissance de ça. Qui le sortent en cassette et en DVD. Du coup, Frémo l'a sorti en France, et c'est sorti au Brésil, où c'est devenu un document d'anthologie. Mais c'est de la folie complète. La dernière fois que j'étais au Brésil, il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé être confronté à un tel flot d'émotions et tout ça. Je reçois des mails... 3 ou 4 par jour. Donc c'est symbolique de mon parcours, parce que ce hold-up que j'ai fait en 3 jours il y a plus de 40 ans, et qui, grâce au Japon, a refait surface. C'est incroyable. Mais c'est devenu de la folie au Brésil.
Oui, c'est vrai que c'est un document vraiment fabuleux.
Donc ça, c'était 69. Et 70, j'ai fait mon premier long métrage, Ça va, ça vient. Tourné en 3 semaines, pareil. Mais vous verrez ce qu'il y a d'intéressant déjà, ce qui prend un relief intéressant aujourd'hui, c'est que c'est l'histoire de 2 amis d'enfance.
Oui, un juif et un...
Un juif et un arabe, déjà, pour le faire, qui vivent en banlieue et qui y participent à ce qui les a chassés de la ville. D'ailleurs, Jean-Louis Borry, il évoque dans sa critique le problème des banlieues aujourd'hui, ça s'est accru depuis, ça a démarré avec Haussmann et Rambuteau. Parce que garder une concentration prolétarienne dans une ville aussi frondeuse que Paris, c'était un élément de trouble. Creuser les grandes avenues où les chars pouvaient passer, et on reclassait les classes bourgeoises, et ça n'a jamais cessé depuis. Donc, il est en banlieue et qui participe, il travaille sur un chantier Place des Fêtes à Belleville, à ce qui les a chassés eux de la ville, et qui sont confrontés un jour à une grève sauvage des transports. Et il y en a un des deux qui, par la grève, retrouve une disponibilité au temps et se barre avec la troupe du Magic Circus. Mais ce qu'il y a, je suis impatient que vous posiez votre regard là-dessus, parce que ce qu'il y a d'incroyable dans le film, là, j'avais pas vu depuis longtemps, ils l'ont reproché à Belleville, c'est que tous les gens qui participent au film, tous, n'avaient jamais mis le nez devant une caméra.
Ah oui, c'était tous des gens qui étaient...
Et vous verrez comment les gens du marché de la Place des Fêtes, les vrais ouvriers du chantier de Belleville, rentrent dans la fiction, ils font un travail d'acteur qui est incroyable, quoi. Parce que c'est...
Oui, c'est parfois les meilleurs acteurs sont ceux qui n'ont pas de...
Ouais, incroyable, incroyable. Donc ça, c'est mon deuxième geste de cinéaste, Ça va, ça vient. Après, j'étais tellement vampirisé par les gens qui jouaient la porte à Sarava, que mon deuxième long métrage, que j'ai tourné en 8 jours, qu'on va sortir, qui sort en DVD dans quelques jours, là, qui vous parviendra, qui s'appelle The Labyrinthe ou l'album de famille, et qui est le film le plus sournois que j'ai jamais fait. Vous verrez. Et puis après, le seul film que j'ai fait dans des rouages de production classiques, qui s'appelle Le Divorcement, avec Michel Piccoli et Léa Massari. Et puis ensuite, j'ai découvert la vidéo, donc j'ai fait plein de documents que je faisais tout seul, quoi.
Alors justement, pour revenir rapidement sur Jérôme Savary, quel souvenir vous gardez de lui? Parce que c'était un personnage...
C'était un personnage, c'était un ami, quoi. On avait plus que sympathisé. Il habitait à 2 pas d'ici, place de la Contrescarpe.
D'accord.
Et c'était... Il y avait une vraie complicité. Et quand il a décidé de s'intégrer au long métrage, c'était un cadeau pour moi. Mais il avait... Jamais mis le nez devant une caméra à l'époque.
Non plus.
C'est sa première présence au cinéma.
Et alors, juste pour finir, comment vous, pour conclure, vous êtes toujours resté un peu en dehors des systèmes de production classiques. Alors, comment vous voyez-vous maintenant l'évolution du marché de la musique, du monde de la musique, avec à la fois quand même pas mal de labels indépendants qui sont actifs, en même temps des majors qui pleurent un peu parce que il y a un effondrement des ventes, etc., etc.
Oui, oui, mais j'ai pas d'opinion réelle là-dessus. On est dans une spirale que je trouve assez négative en ce moment, à tout point de vue, c'est-à-dire le jeu miroir des médias joue un rôle épouvantable. C'est incroyable à quel point on vit dans une société où le négatif prend le pas sur le positif.
Oui, on retient les...
Moi, je ne vous connais pas, par exemple. Hein. Il y a 300 personnes qui m'ont dit que vous êtes un mec superbe. Il y en a 3 qui vont dire que vous êtes un enfoiré. La pensée des 3 va faire...
Va battre 300, oui.
Oui, non, c'est incroyable, incroyable. Alors, ce qu'il y a, si vous voulez, ça va déjà, c'est qu'aujourd'hui, on est le plus ancien label indépendant. Tous les autres ont été rachetés par des... Mais si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que pour moi, le classement des genres, c'est du marketing. Hein, je peux être bouleversé par une chanson, être complètement exalté par un trio de jazz. C'est pour ça, Sarava, il y a un éventail, un panoramique incroyable.
Oui, il n'y a pas justement de marketing ni de
non,
de
non,
classement.
Non, je crois pas au statut, quoi. Il y a des choses incroyables. Nana Vasconcelos, par exemple, ou Pierre Kendenge, à l'époque, les Noirs, on disait qu'ils tapent sur leur tam-tam, mais c'est bien comme ça.
Voilà, et là, c'était une vraie...
Oui, et en plus, le deuxième album, j'ai présenté, il y a Nana Vasconcelos et Kendenge, un des premiers liens Afrique-Brésil. Donc, il y a un panoramique fou, parce que, je vous dis, pour moi, le classement des genres, c'est du marketing, quoi, donc... J'ai ouvert la porte, il y a des gens qui m'ont ému, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi.
C'était pour ça, justement, que c'est resté, que Sarava a perduré, parce que justement, il n'était pas dépendant des aléas du.
Non, non, je crois.
Commerciaux.
Je crois que c'est ça, puis le temps est un filtre parfait, il y a plein de choses qu'on découvre aujourd'hui, qu'on a. Et, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que. Là, je vais vous montrer un truc. Qui a été symbolique. Hein. Excusez-moi, je reviens. Pardon. Hein.
Je vous en prie.
Ça et tout ça, et moi j'avais amené Maurice Vander et tout ça, c'était de l'info totale.
Oui, oui, bien sûr.
Et donc là, vous voyez voir, c'est un vrai symbole. Bon, ça, c'est les disques AZ. Hein.
Oui, oui, c'était le premier.
Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je suis un film comme acteur avec Lelouch qui s'appelle Une fille des fusils, et là-dessus, il me parle d'un autre projet, il me dit, c'était rien n'était écrit. Il me raconte une histoire en 3 minutes, l'histoire d'un homme mort, moi d'une femme qui se souvient de lui. Je lui présente Jean-Louis Trintignant, qui lui présente Anouk Aimée, et je lui fais de l'intox sur le talent de Francis Lay. À l'époque, petit accordéoniste d'histoire, on en avait déjà parlé parce qu'il avait fait un petit truc avec Édith Piaf, mais qui jouait dans les balles et tout ça et tout. C'est pas que Louch en doutait, mais un accordéoniste d'histoire... Mais c'est une circonstance, on avait écrit une chanson avec Francis qui était porteuse des mêmes parfums que l'histoire que me racontait Lelouch. Donc je le traîne à Montmartre, Lelouch, où on était voisins avec Francis, il sort son accordéon et on lui chante « Avec notre passé pour guide, on se devrait d'être lucide, mais notre méfiance est à bout, l'amour est bien plus fort que nous. » Et Lelouch craque complètement. Il me dit, tu me la gardes pour mon film. Moi, j'étais content, j'avais placé mes potes. Là-dessus, il fallait qu'il trouve du pognon. et on propose d'aller faire un film comme acteur au Brésil, Les Amants de la mer, qui se tournait dans un petit village de l'autre côté de la baie de Rio et tout ça. J'en parle à Lelouch, il me dit « Ouais, vas-y, je trouve pas de pognon et tout ça. » Donc j'y vais. Le film terminé, j'étais tellement bien dans ce petit village, j'étais pote avec les pêcheurs et tout ça et tout, je bougeais pas. Mais je n'allais à Rio que le dimanche. Et tous les dimanches soirs, je passais en fait toute la nuit avec Baden Powell dans un bistrot, on chantait ensemble et tout ça. Et le matin, je reprenais le bac, parce que maintenant, il y a un pont qui traverse la baie, mais à l'époque, non. Et un jour, télégramme de Lelouch, rentre en tourne. J'étais tellement bien que je tire sur l'élastique, je rentre à 3 ou 4 jours du début du tournage, et la dernière nuit, je la passe avec Baden, et c'est cette nuit-là que j'ai écrit la Samba Saraba. Ça faisait des mois que Vinicius de Moraes me disait « Fais-la en français, il n'y a que toi qui peux le faire ». Je disais, oui, mais elle est trop brésilienne, je vais la trahir, mais il m'a mis un poison en tête. Donc il y a un petit puzzle qui se met en place, et elle est née cette nuit-là. Mon avion partait à 14h. Je me retrouve chez Baden, on la chante toute la nuit, hein. Je me retrouve chez Baden à 9-10h du matin, je prends une douche, on l'enregistre sur un Revox, une prise, pour garder une trace de cette nuit. J'arrive, c'était Orly Sud, Lelouch vient me chercher avec mon grand frère, c'est lui qui a fait la photo, vous allez voir, c'est incroyable. Il me dit, t'es crevé, je t'amène chez tes parents. Je dis, oh, mais je vais te faire écouter un truc. Je pensais pas à son film, hein. A priori, ça avait rien à voir, la Samba Saraba. Mais j'en avais tellement plein la tête. On passe par Europe 1, je lui fais écouter. Il dit à l'ingénieur du son, vous pouvez la repasser. Le mec la repasse. Il dit, je change mon scénario, je la mets dans le film. À 3 jours du début du tournage. Alors, regardez. Vous êtes prêts ?
Oui, oui, oui.
Orly Sud.
Avec les bandes.
Ce que j'ai dans la main, c'est la Samba Saraba enregistrée après une nuit sans sommeil sur un Revox.
Ah oui, c'est fabuleux.
Mais ce qui a conditionné tout le son de Saraba, c'est que la chanson qui est dans le film et dans le disque, c'est celle-là.
C'est celle-là qui avait une sorte de première prise sans
fioriture. Enregistrée après une nuit sans sommeil. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que ça... Là, j'ai compris qu'il fallait vraiment... donner la place à une spontanéité.
Voilà, toujours garder...
Et donc, Brigitte Fontaine et le Art Ensemble de Chicago...
Voilà. Pareil, il y a la même spontanéité.
Le Art Ensemble de Chicago, il venait faire des concerts à Paris, il ne savait pas où répéter. Moi, on avait le petit studio Place des Abbesses. Quand le studio était libre, je leur disais, voilà, et tout ça. Puis un jour, Brigitte était là, je les ai laissés. Puis...
Ils ont fait leur fabuleux disque.
Non, mais donc ça, c'est symbolique, si vous voulez.
Oui, oui, je comprends bien.
Tout le son.
Ça, c'est important, j'en parlerai. Problème, ça serait même génial d'utiliser de demander si on a pu avoir la photo pour le.
Oui, ben vous demandez à Yvonique.
Oui, je demanderai parce que je pense que cette photo-là, c'est pas mal pour,
pour
illustrer l'article.
C'est incroyable. Et alors, ce qu'il y a, c'est que. Moi qui suis fasciné par la vertu des impondérables. Un homme et une femme, bon, Lelouch, le film d'avant, et en fait, il n'avait jamais imaginé mettre une chanson dans un film. Donc, c'est lié à ce que j'ai proposé et à sa disponibilité.
Oui, son ouverture de...
Mais si vous voulez, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que s'il y avait eu un producteur, jamais on aurait pu faire ça.
Ça ne va pas rentrer dans les cases.
Donc, c'est la vertu des impondérables, quoi. C'est parce qu'on n'avait pas un rond pour faire le film qu'on a eu cette liberté. Et que Lelouch a eu cette liberté.
De faire. Peut-être que ça serait bien de mettre comme titre de l'interview La vertu des impondérables.
Ah, oui, oui, oui. Non, mais
ça pourrait être une bonne idée, je sais pas ce que vous
en pensez. C'est incroyable, mais... à tout point de vue, parce que au bout de, je sais pas, 10, 15 jours, il nous a réunis avec Anouk et Jean-Louis. Il dit, bon, je suis désolé, tournage interrompu. Et moi, j'ai plus un rond et tout ça. Alors, comme mon premier disque à Z, ça marchait bien. Je vais trouver tous les éditeurs, Barclay, tout le monde, dans l'espoir de gratter un peu d'avance sur les droits d'édition, ramener ce pognon à Lelouch, en disant tu rachètes pour autant de péloches, je continue, et tout le monde m'a rayonné. Un accordéoniste niçois, le film que Lelouch avait fait avant, non.
Donc obligé de créer des éditions.
Et justement, la légende raconte quand je me suis... que le Saraba est né du succès d'un homme et une femme.
C'est le contraire, en fait.
Mais Saraba est né de l'insuccès supposé.
Il a fallu se débrouiller. Oui.
Moi, c'est parce que personne ne voulait éditer que dans un réflexe ludique, j'ai dit personne ne veut éditer, on édite nous. Et 6 mois plus tard, je me retrouvais à Hollywood, Cannes et tout ça, tous les mecs que j'avais vus, Barclay, tout le monde, carnet de chèques en main, en disant on rachète. Et comme j'ai toujours été, depuis mon adolescence, quoi, j'ai toujours été disponible à la reconnaissance du talent des autres, j'ai commencé à ouvrir la porte.
À tous les artistes qui ont fait l'histoire du label. C'est, je pense que là, j'ai vraiment quelque chose de...
Mais il y a une éthique, hein.
Il y a une éthique aussi, c'est important.
Oui, non, parce que vous m'amenez un truc à Sarava en prouvant qu'on va vendre 300 000 exemplaires, je ne le revendique pas.
Non, bien sûr, c'est toujours...
On a ouvert la porte qu'il y a des gens qui nous passionnaient, quoi.
Bien sûr, c'est les coups de cœur, c'est pas des choix... Oui. D'ailleurs, on parlait de ça, d'être... C'est peut-être pour ça qu'on survit, parce que les labels, certains labels commerciaux qui... ou les majors... qui eux faisaient que des études de marché, ont beaucoup plus de mal à finalement tenir que ceux qui sont basés sur le... C'est un peu le lièvre et la tortue.
Oui, voilà, vous avez raison. Non, on a ouvert la porte qu'à des gens qui nous ont passionnés, quoi.
Voilà, c'était la tortue qui a continué pendant que les lièvres se...
Ouais.
Bah, écoutez, c'est fabuleux.
J'ai pas été trop long, je vous
parle. Non, j'ai regardé.
Rectangle.